Nous sommes donc au début du ministère du Christ, au chapitre 4e de Saint-Luc, et nous avons cet épisode bien connu de Jésus qui affronte le démon, le diable, diabolos veut dire le diviseur, qui traverse toute la parole de Dieu, que nous retrouvons dans plusieurs lectures et dans plusieurs livres de l'Ancien Testament. Et puis, ce qui est intéressant, c'est les différentes formes de tentation. D'abord, méditer, qu'est-ce que c'est qu'une tentation ? Une tentation, c'est le démon qui s'adresse à l'imaginaire. La tentation passe par l'imaginaire. On imagine que, ça commence là, on imagine que si je mens, si je vole, si je critique, si je calomnie, du coup, je serai mieux, je serai plus heureux. C'est une promesse de bonheur qui n'atteint pas son objectif, la tentation. C'est une promesse de bonheur qui n'a jamais... Mais c'est intéressant de voir qu'il y a une garde de l'imaginaire à avoir aussi dans notre vie, parce que l'imagination, elle n'est ni bonne ni mauvaise, elle fait partie de notre vie avec, je m'appelle les sens internes, vous avez les cinq sens, hein, l'ouïe, le toucher, etc. Et vous avez ce qu'on appelle les sens internes, l'imagination, la mémoire et entre autres ce qu'on appelle la cogitative. Voilà, ces sens internes, c'est intéressant de dire, tiens, ça fait partie de notre humanité, mais c'est un lieu de combat intérieur. Et il y a des personnes qui sont peut-être plus tentées parce qu'ils ont un imaginaire beaucoup plus développé. Hein, beaucoup plus développé. Parce que une fille parfois... Parce que l'imaginaire est aussi au service de beaucoup de choses, de réalisations. Je veux dire, un chercheur, par exemple, ne trouverait pas s'il n'avait pas d'imagination. Un chercheur scientifique, il a déjà l'imagination qu'il faut chercher là, et c'est pour ça qu'il trouve. Un artiste, hein, quelqu'un qui fait prêche sur la parole de Dieu, il a déjà en imagination, il voit un peu vers quoi il veut aller. Mais ça demande une garde, la garde de notre imagination. Et donc, c'est la première chose à se poser la question, où est-ce qu'on en est là-dessus, de notre imaginaire, de tout ce qui peut nous peupler intérieurement. Et il y a trois grandes formes de tentation. Après 40 jours, ça, vous savez, 40 jours dans la Bible, c'est pas 20 plus 20. C'est pas 20 jours plus 20 jours, c'est pas ça, ça ne veut rien dire ça. Ça, c'est 40 jours, 40, 40, tout de suite, vous avez en tête 40 semaines d'aménorrhée. Pour une grossesse. 40, fécondité, nouvelle naissance, hein, porter du fruit. 40, c'est ça. 40 ans dans le désert, 40 jours sur la montagne. Des 40, il y a plein de 40. Hein. Donc, Karen veut dire, vient de 40 précisément. Donc c'est intéressant de dire, pour accéder à une nouvelle fécondité, il y a un combat à mener. C'est pas intuitif. Il y a quelque chose dans l'imaginaire à travailler. La première chose, c'est la question qui a à voir avec le corps. On peut dire la toute-puissance, ces trois formes de toute-puissance. J'aime moins la dénomination orgueil qu'on occupe aussi, hein, les trois formes d'orgueil, hein, orgueil de la chair, des richesses et de l'esprit. Mais je préfère au mot orgueil le mot toute-puissance. Hein, demander à notre corps de nous fournir un peu l'infini de notre intelligence, demander à notre corps de nous donner de façon illégitime, quelque chose qui voilà, n'est pas en fonction de sa finalité qu'est la communion. Alors on comprend bien qu'au bout de 40 jours de jeûne, il eut faim, voilà. Et donc c'est les tentations liées au corps, et c'est tout ce qui est lié évidemment à toutes les formes d'addiction. Addiction liée au corps, on pense à l'alcool, la cigarette, la drogue, la pornographie, etc. Toutes ces addictions qui nous font que justement on n'est pas libre. Hein, et aller au désert, c'est rentrer dans une liberté. Hein, c'est une fécondité parce qu'on est libre. Donc c'est intéressant d'abord de se questionner là-dessus. Et puis n'oublions pas, si vous avez bien lu votre petite évangile, etc., avant de venir, comme je suis sûr que vous l'avez fait, avec quoi le démon tente ? Il tente avec la parole de Dieu. Et Jésus répond aussi avec la parole de Dieu. Hein, vous verrez, c'est en italique dans le texte. Bon. Et puis, donc, ensuite, c'est tout ce qui est lié au corps, tout ce qui est lié aussi au pouvoir. C'est intéressant aussi, le pouvoir, l'avoir, le savoir. Voilà, je te donnerai tout ce pouvoir, la gloire de ces royaumes. tout ce qui est la toute-puissance des richesses, la toute-puissance du pouvoir, la toute-puissance du savoir. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'hubris, hein, qui n'est pas un mot très employé. L'hubris, le fait de se gonfler, ce gonflement de soi-même. Qu'est en nous ? Hein, on connaît la grenouille qui est la femme de la fontaine, qui veut devenir plus grosse que le bœuf, etc. C'est ce gonflement de soi-même par l'avoir. C'est pas juste par la jouissance liée au corps, c'est par l'avoir. Hein, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous ces royaumes et la gloire de ces royaumes, hein, qu'on parle de moi, la vaine gloire. Ça c'est en nous aussi, c'est intéressant de dire, de voir comment de s'auto-référencer. Tout ça, c'est des auto-référencements. Et Jésus qui répond avec la parole de Dieu, voilà, je ne me prosternerai que devant le Seigneur ton Dieu. Mais la troisième tentation, elle est certainement la plus subtile, c'est la tentation spirituelle. C'est la tentation spirituelle parce que là, pour le coup, c'est avec la même parole de Dieu que le diable nous tente. Il nous tente comment ? Donc ça veut dire aussi qu'il y a une lecture diabolique de la parole de Dieu. C'est intéressant ça aussi, on n'y pense pas toujours. Une lecture diabolique de la parole de Dieu qui peut nous éloigner du Seigneur. Et on a vu au cours de l'histoire de l'Église par exemple, un certain nombre de dérives dans l'interprétation de la parole de Dieu qui ont emmené des fidèles très loin, hein, du chemin de l'Évangile. On pense par exemple au jansénisme, mais il y en a les cathares par exemple, etc. Tout ce qui est de l'ordre de vouloir être des purs, vous voyez, donc ça y est, toujours avec, comme soubassement, les gens vous citent la parole de Dieu. Il y a une lecture diabolique de la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que la parole de Dieu que dans sa interprétation, il faut prendre telle qu'elle. Mais je trouve que c'est intéressant, cette troisième, elle est plus insidieuse. Hein, le démon le conduit en esprit sur le sommet du temple, donc sur le pinacle du temple, le lieu du Dieu un, au-dessus, il le met au-dessus de Dieu. Hein, au-dessus de Dieu, et il cite, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Ça c'est le psaume. Hein, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Donc le démon tente Jésus avec la parole, avec le psaume. Se mettre au-dessus de Dieu, on se dit, mais non, c'est pas pour nous, parce que... Mais à y regarder, autant bon, tout ce qui est de l'ordre de la sensualité, la sensitivité, bon oui, de l'hubris, le fait d'avoir, oui... de se gonfler d'orgueil, de vaine gloire, etc. Oui, ça, on peut. Mais non, mais si on est ici, c'est qu'on ne se met pas au-dessus de Dieu. Et c'est intéressant de dire comment, au fond, c'est la tentation la plus subtile et la plus puissante. C'est celle qui fait que, progressivement, on évacue la prière. On évacue la prière. La prière se retire à bas bruit. Se retire à bas bruit. Un petit pas se met de côté. Et parce que la prière se met de côté, eh bien, on s'auto-référence, c'est-à-dire c'est nous-mêmes qui devenons le référencement. Hein, passer une journée de récollection, prochaine des récollections fiancées dans le Val d'Oise, etc. Vous voyez des tas de gens, voilà, je crois des tas de gens sur une piste cyclable, comme certainement les beaux jours, etc. Bon, je me dis, tiens, c'est intéressant ces personnes-là. Alors, peut-être ils allaient à la messe du dimanche soir, c'est la messe des ouvriers de la dernière heure, mais toujours est-il que je me dis, tiens, mais quel est leur Dieu ? Où est la place de la prière ? Où est, il n'y a pas d'athée. C'est pas vrai. On a tous un Dieu. Juste savoir lequel c'est. Soit c'est ma voiture que je nettoie le dimanche matin religieusement, soit c'est mon compte en banque, soit c'est, voilà, c'est intéressant de voir cette vie spirituelle fait que progressivement on rentre dans une forme de manque d'attention à ce qui se passe à l'intérieur de soi-même, hein, on n'est plus attentif à nous-mêmes, on devient les analphabètes de nous-mêmes. Précisément parce que, voilà, il y a une forme d'éloignement du Seigneur, de la prière, et sous prétexte de paroles de Dieu, de choses en plus religieuses. Là. Le temps, hein, parole de Dieu, le psaume. Donc je me dis, tiens, ça c'est... Je me souviens comme ça d'un homme qui avait eu toute une période de sa vie, une double vie, un homme marié, une famille très religieuse, etc. Toute une double vie, etc. Il priait en famille, faisait des retraites familiales, c'est-à-dire très impliqué dans la foi, et me dit à un moment donné, j'avais perdu le contact personnel avec le Seigneur. J'avais perdu le contact personnel avec le Seigneur. Ce qui fait qu'il y a une forme d'aveuglement. Et puis ils ont très, très bien rebondi, vraiment aujourd'hui ils témoignent, etc. C'est très beau. Et je trouve que c'est cette forme de qu'est la tentation spirituelle, hein, qui fait que qui a à voir avec le temps. C'est intéressant, ça a à voir avec le temps. Hein, on ne prend pas le temps de la contemplation. On ne prend pas le temps de la contemplation. Ce qui fait qu'il y a une forme d'impunité. On ne se rend pas compte. D'aveuglement. On a tous notre comment on peut dire ça, oui, notre point obscur, notre angle mort. L'orgueil, précisément, c'est ça, c'est qu'on ne se voit pas agir, et donc du coup, singulièrement au niveau spirituel. Et puis les conséquences, bon, les addictions, les conséquences, on les voit. Si vous êtes dans le détournement de fonds, si vous êtes dans, etc., les abus de pouvoir, ça se voit. Qui va vous reprocher de ne pas prier? Personne. Donc je me dis, tiens, ça c'est vraiment la dernière des tentations que le Seigneur vient affronter en nous, pour nous. Et j'aime bien cette phrase de saint Benoît qui dit qu'on se confesse, et c'est vrai, parfois qu'on se confesse, et il y aura un temps de confession, voilà, prévu dans la paroisse, etc. Parfois on se décourage parce que grosso modo on confesse un peu la même chose, quoi. Je sais pas vous, mais bon, plutôt pareil, quoi. De fait on vous demande pas de faire dans l'originalité directement, mais on confesse grosso modo la même chose. Mais j'aime bien cette phrase de saint Benoît qui dit: confesser c'est fracasser la tentation contre le Christ. Je viens confier au Seigneur mon combat. Je viens confier au Seigneur mon combat. C'est ça mon combat, Seigneur. C'est peut-être le même. De fait, on se lave les mains plusieurs fois par jour, on prend sa douche, on se brosse les dents, etc. Donc, il y a une routine qui est nécessaire pour l'hygiène du corps et le soin de soi-même, mais il y a aussi une routine pour le soin de son âme. Hein? Je trouve, et donc, soyons attentifs à cette dimension parce que c'est très vite fait. Très vite fait. Cette toute puissance de l'esprit. La toute puissance de la chair, toute puissance des richesses, toute puissance de l'esprit. La toute puissance de l'esprit. Parce que, précisément, il y a quelque chose d'infini dans notre esprit. Nous sommes à l'image, à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en commun. Il y a quelque chose qui a à voir avec Dieu lui-même. Hein, que n'ont pas les animaux, hein, qui sont tout à fait sympathiques par ailleurs, mais et ce côté infini de l'esprit humain, hein, nous sommes faits pour contempler l'infini de Dieu, hein, et le connaître et l'aimer. Mais justement, cet infini doit passer par la porte des pauvres. Il doit passer par la porte des pauvres. Il doit passer par l'humilité. Et face à ces trois tentations, hein, ces trois faux bonheurs, ces trois voilà, imaginaires qui déraillent, eh bien, il y a les trois conseils évangéliques que vous connaissez bien. Hein, la chasteté, juste distance par rapport au corps de l'eau. La pauvreté ou la sobriété des moyens, Pape François en parle souvent. Et puis l'obéissance. Ce n'est pas que pour les moines ou les religieux, c'est tous ceux qui veulent vivre les conseils, l'évangile, ben, vivent parce qu'ils prennent conscience que peut-être l'une ou l'autre chose, il y a, et selon les étapes de la vie, il y a l'une ou l'autre chose où on est plus fragile. Hein? D'avoir cette tempérance, d'avoir cette humilité de renoncer peut-être à un bon mot pour se faire valoir, pour se gonfler d'orgueil, hein, d'accueillir le temps de la prière et d'accueillir le temps de Dieu dans l'obéissance, dans une humilité. C'est le travail de toute une vie, mes amis. De toute une vie. C'est le travail de toute une vie. Mais je trouve, mais mettons-nous au travail, c'est ça l'idée du, comment dire, de la, du carême, c'est ça, si on se met au travail, on prend conscience peut-être d'un point où on va, on est peut-être plus fragile. Vous voyez, il y a un point où on est plus fragile et du coup voilà, c'est, on se dit tiens, où est-ce que, un peu comme une voiture, vous savez, on dit d'une voiture qu'elle tire, je ne sais pas si vous connaissez cette expression-là, elle tire, vous, normalement vous lâchez le volant, une voiture, elle doit aller tout droit, mais non, il y a des voitures, hop là, ça va, hop, vous prenez, vous redressez, c'est pareil pour nous. C'est pareil pour nous. Du coup, où est-ce que on a, nous, des choses où on se dit, tiens, il y a quelque chose peut-être à débusquer. Hein. Et quand vous regardez, moi je suis, disons, saisi de faire que rien de nouveau sous le soleil, tous les scandales que vous avez, que vous voyez à la télévision, prenez ça comme grille de lecture, soit un, soit deux, soit les trois tentations. Tous les scandales, tout ce qui arrive, hein, c'est savoir avec ces trois tentations, le démon qui nous tente. Alors on va demander à Jésus qui nous aide, justement, on prend conscience de ça, on se dit au Seigneur, bah viens prendre soin de notre imaginaire, Seigneur, viens livrer avec moi bataille. Mais qu'il y ait bataille, parce qu'il peut y avoir ne plus avoir bataille faute de combattants, parce qu'on démissionne. Vous voyez ? Donc, il y a une vraie prise de responsabilité, une vraie se saisir de quelque chose, de dire, tiens, là, et peut-être on en a fait la réflexion, et c'est intéressant, les personnes avec qui nous vivons sont autant de miroirs, parce qu'on ne se voit pas vivre, parce qu'on est un angle mort, parce qu'on est des analphabètes de nous-mêmes, parce qu'on est entraîné par une forme de... Oui, de toute puissance qui nous emmène loin du Seigneur. Donc, je trouve que c'est important de pouvoir demander au Seigneur cette grâce particulière de ce combat intérieur. C'est ce que nous voulons lui demander aujourd'hui de façon particulière à travers. Et de voir que ces combats-là, d'une manière ou d'une autre, ils impactent nos relations, forcément. Alors, demandons nous-mêmes assez d'humilité pour. Que le Saint-Esprit vienne nous éclairer, nous dire dans quelle direction aller, peut-être ce carême particulier, vers quel point, eh bien, on va pouvoir accentuer notre effort, notre prise de conscience.